tout le monde ne connaît pas son histoire ou n'était pas là début juillet. Je rappelle les premiers épisodes. Comme tout prophète en Israël, Jonas est appelé à être le porte-parole de Dieu, à être envoyé en mission quelque part. Et là, il est envoyé à Ninive, la capitale de l'Assyrie, à 1000 km environ de Jérusalem ou d'Israël, vers l'est, capitale des Assyriens, ennemis d'Israël. Et Jonas écoute la parole de l'Éternel et il s'en va, mais dans la direction opposée. Il s'en va à l'ouest, vers Tarsis, qui est, semble-t-il, en Andalousie, en Espagne. On lui propose une mission, lui il s'en va en croisière, j'aime bien cette expression. Il fuit loin de l'Éternel, mais quand il est en train de traverser la Méditerranée, Dieu fait lever une tempête sur cette Méditerranée, et les marins s'inquiètent de ce qu'il passe. Jonas pense bien être la cause de cette tempête, à cause de sa désobéissance, et il propose aux marins de le jeter par-dessus bord. Les marins hésitent, parce que c'est quand même des âmes sensibles, ils ne se débarrassent pas d'un voyageur comme ça. Mais pour finir, ils le font, et ils jettent Jonas par-dessus bord. Un homme à la mer, un. La mer se calme, et les marins en profitent pour se convertir au Dieu d'Israël, eux qui étaient polythéistes, se convertissent au Dieu vivant et vrai, lui offrent des sacrifices. Tout n'est pas perdu dans l'histoire. Mais dans Jonas 2, Jonas, notre héros, entre guillemets, se retrouve dans l'eau. Il a bien cherché, me direz-vous. Mais Dieu ne lâche pas l'affaire et il envoie un grand poisson qui avale Jonas. Alors, dimanche dernier, nous avons proposé quelques questions. Questions pour un poisson, non pas questions pour un champion, mais questions pour un poisson. Et en particulier, en ce qui concerne cet individu qui se trouve pendant 3 jours dans son estomac. Et ce poisson nous a dit qu'il s'était passé quelque chose. Que Jonas avait été quelque part éduqué par Dieu dans son estomac, puisqu'il va chanter un psaume ou dire un psaume ou penser à un psaume qu'il écrira peut-être plus tard. Et dans ce psaume, il nous dit qu'il a repris la communication avec Dieu, si ce n'est même la communion avec Dieu. Et il semble que Jonas, dans le ventre du poisson, ait changé, et donc il écrit ce psaume qui semble le confirmer. Et il a bien fallu ces 3 jours pour éduquer Jonas. Et à la fin du chapitre 2, le grand poisson vomit, expulse Jonas sur la terre ferme. Et nous allons lire ensemble ce chapitre 3 qui n'est pas trop long. L'Éternel adressa la parole une seconde fois à Jonas en ces termes. « Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame là-bas le message que je te communique. » Jonas se mit en route et se rendit à Ninive, comme l'Éternel le lui avait demandé. Or, Ninive était une ville extrêmement grande, il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Jonas entra dans la ville et commença par y marcher toute une journée en proclamant « Dans 40 jours, une catastrophe viendra sur Ninive. » Les habitants de Ninive crurent en Dieu. Ils publièrent un jeûne, et quelle que fût leur condition sociale, ils revêtirent des habits de toile et de sacs. Le roi de Ninive, informé de la chose, se leva de son trône, enleva son manteau royal, se couvrit d'un habit de toile de sac et s'assit sur de la cendre. Puis il fit proclamer ce décret dans Ninive. Par ordre du roi et de ses ministres, il est interdit aux hommes comme aux bêtes, petits ou gros bétail, de manger quoi que ce soit, de paître et de boire de l'eau. Les hommes et bêtes doivent se couvrir de toiles de sac et crier à Dieu et de toute leur force que chacun abandonne sa mauvaise conduite et les actes de violence qu'il commet. Qui sait ? Peut-être Dieu se ravisera-t-il et décidera-t-il de changer de ligne de conduite en abandonnant son ardente colère de sorte que nous ne périrons pas. Lorsque Dieu constata comment les Ninivites réagissaient et abandonnaient leur mauvaise conduite, il renonça à faire venir sur eux le malheur dont il les avait menacés. Il s'en abstint. Alors ce qui m'a frappé dans la lecture de ce texte, en tout cas dans les premières phrases, ce sont les 3 petits mots « une seconde fois ». L'Éternel adressa la parole une seconde fois à Jonas. La première fois, je vous l'ai dit, il était parti de l'autre côté, il ne supportait pas l'idée que l'on donne une moindre chance à la population ennemie de Ninive, qui n'a rien à voir avec le peuple élu, le peuple d'Israël. Jonas a sa propre vision des choses, Jonas a son propre agenda, son agenda personnel, et il ne correspond pas à celui du Très-Haut, il fuit en mettant d'autres en péril. Mais la parole de l'Éternel lui fut adressée une seconde fois. Et ça pose question. Et la première de ces questions est de savoir comment Dieu peut utiliser un homme aussi peu coopératif, récalcitrant, qui s'en tient à son propre agenda. Comment est-ce possible que Dieu lui demande la même chose une seconde fois alors qu'il a tout faux la première, alors qu'il a, entre guillemets, foiré la première? La parole de l'Éternel lui fut adressée une deuxième fois. « Lève-toi, va à Ninive la Grande et fais-y la proclamation que je te dis. » Même mission, même destination, même message et surtout même homme. Peut-être un peu changé, mais ça reste la personne, le prophète Jonas. Dieu aurait pu choisir un autre prophète, laisser Jonas dormir au fond de la cale et se rendre en Andalousie pour se faire une nouvelle vie. Dieu aurait pu passer une annonce dans les écoles des prophètes. Il y en avait à l'époque des écoles de prophètes, des genres d'instituts bibliques, et faire une annonce. Qui veut aller à Ninive pour moi, pour faire de l'évangélisation? C'est une belle culture. Il y a une bibliothèque de tous des manuscrits en cunéiforme. Ça peut intéresser un étudiant en théologie d'aller là-bas. Mais il ne l'a pas fait. Il fait en quelque sorte preuve d'acharnement dans son amour pour Jonas, peut-être pour Dieu, le cœur de Jonas en vaut la peine, qu'il n'est pas un prophète Kleenex que l'on jette après usage ou surtout qu'on le jette après désobéissance. La personne de Jonas semble être pour Dieu au moins aussi important que la mission. C'est une personne qui compte pour Dieu. Ça me fait penser à Pierre dont Yvonne a parlé très brièvement. Pierre, à qui Jésus dit au début du ministère, va, je vous ferai de toi un pêcheur d'hommes. Et puis il y a les trois reniements successifs. Pierre est au fond du trou. Et Jésus le récupère au bord du lac de Tibériade et lui dit une deuxième parole. Va, prends soin de mes brebis. Il y a des deuxièmes paroles que Dieu adresse aux hommes et aux femmes, et aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui. Et je veux penser à nous, à toutes nos fuites en avant à la Jonas, à nos temps d'égarement dans notre vie, ou nos temps d'éloignement, ou nos temps d'aveuglement. Les choses, les moments où on n'a pas été bon, pour ne pas dire même mauvais, les temps où on a foiré quelque chose, où on a raté quelque chose, où notre responsabilité était engagée. Je pense aussi aux moments difficiles de la vie où notre responsabilité n'est pas spécialement engagée, mais où on vit des périodes difficiles, compliquées, la séparation, le divorce peut-être, la maladie physique ou la maladie psychique. Eh bien, dans ces moments-là, et après ces moments-là, je suis convaincu que Dieu nous adresse la parole une seconde fois et nous dit « va ». Peut-être pas à Ninive, peut-être pas en Iran, en Irak, mais va dans la vie, avance dans la vie. Je ne t'abandonne pas. J'ai une mission encore pour toi dans ce monde. J'ai pour toi un sens encore à donner à ta vie. Il nous dit un petit peu comme aux exilés de Babylone dans Jérémie 29, j'ai des projets pour toi. Non pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur et de paix. Pour te donner un avenir, et pas n'importe quel avenir, un avenir fait d'espérance. C'est ce qu'il dit à Jonas, en lui donnant cette deuxième parole. C'est ce qu'il nous dit, j'en suis convaincu, aujourd'hui. Pour la deuxième fois, la parole fut adressée à Jonas. Et il faut remarquer que si l'appel reste le même, la réponse de Jonas est tout à fait différente que la première fois. Alors Jonas se leva et il alla à Ninive, à l'est, selon la parole du Seigneur. La première fois, il nous est dit qu'il s'était levé, mais pour aller autre part, loin de la face du Seigneur. Et là, il y a vraiment une opposition entre loin de la face du Seigneur et selon la parole du Seigneur, dans l'obéissance au Seigneur. Jonas a fait du chemin, au propre comme au figuré. Mais on ne pouvait peut-être pas le prévoir. Comment est-il possible que Dieu fasse confiance après une première fois qui s'est mal passée? Et c'est notre première question. Comment peut-on donner une deuxième chance à ce Jonas? Je vous demande pardon, je me désaltère. Ça, c'était la première question qu'on pouvait se poser. Et l'autre question qu'on peut se poser, c'est comment une ville aussi méchante que Ninive peut-elle changer comme cela d'une manière aussi radicale? Et comment Dieu peut-il faire confiance en ces gens-là? Tous les commentateurs soulignent le côté exceptionnel du changement chez les Ninivites. Certains même émettent des doutes. Le message de Jonas est assez court. En hébreu, il tient en 5 mots. D'ici 40 jours, il y aura Dans 40 jours, une catastrophe viendra sur Ninive. C'est pas très long en français non plus. Cette phrase n'est pas dite avec beaucoup d'enthousiasme, n'est pas dite avec beaucoup de compassion ou d'amour. Mais l'effet quand même est spectaculaire. Le roi, les nobles, toute la population vire de bord comme un seul homme. On y ajoute même le bétail qu'on couvre de sacs, de toiles et de cendres. Une tradition, semble-t-il, d'inclure le bétail chez les Assyriens. Ils sont presque un peu ridicules dans leur changement. Alors il faut savoir que les Assyriens étaient connus pour leur violence et leur absence totale de pitié. À l'entrée de leur ville, ils disposaient les têtes coupées de leurs ennemis en tas pour dissuader les autres ennemis, pour décourager tout le monde. Bienvenue à Ninive. Ils éliminaient les jeunes enfants des peuples ennemis pour ne pas avoir à s'en occuper. Bref, l'horreur totale pour les Assyriens et là, changement total. Si bien que certains biblistes se demandent si Ninive n'aurait pas été préparée à la proclamation de Jonas. On parle d'une éclipse de soleil qui aurait eu lieu dans les environs vers le 9e siècle, enfin, ou le 8e, le 15 juin 763. Et les civilisations, il n'y avait pas que les Incas et les Mayas qui étaient sensibles aux éclipses. Là aussi, on est sensible aux éclipses, on y voit un signe de Dieu, mais le texte n'en dit rien. Jamais il ne cherche à expliquer la repentance des Ninivites, mais il insiste sur le caractère exceptionnel du changement dans la ville. On est là devant une surprise, une bonne surprise. Même les Ninivites peuvent se repentir ou se convertir. C'est le même mot dans le Nouveau Testament. Et le titre aurait pu être Jonas 3 ou l'histoire d'une conversion improbable. Et on peut se demander s'il n'y avait pas quelque chose à l'œuvre qui dépasserait notre petite probabilité ou statistique humaine. Alors, pour résumer la question, enfin, on ne va pas résumer, elles sont là toutes les deux. Pourquoi Dieu peut-il accorder sa confiance à des Ninivites sans foi ni loi? Comment est-il possible que Dieu accorde une deuxième chance à un homme qui a complètement raté la première et qui suit son propre agenda? Et puis, question ultime, comment Dieu peut-il encore me faire confiance? Après ce que j'ai fait, peut-être, après ce que j'ai dit, après ce que j'ai vécu, comment Dieu peut-il encore croire en moi? Et il y a 2 réponses à cette question. Et la première réponse, c'est que de temps en temps, des hommes passent par des repentances authentiques. On a déjà parlé pour le chapitre 2 de celle de Jonas, en chute libre dans les profondeurs abyssales, qui se tourne vers Dieu et qui dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué le Seigneur ». Alors que je fuyais loin de sa face, je me suis tourné vers lui dans la repentance, dans la conversion, dans le changement radical de ma vie, dans le changement de mon agenda personnel, de ma vision des choses. Mais celle des Ninivites est encore plus spectaculaire. Nous l'avons lu tout à l'heure. Ils publièrent un jeûne. Ils mettent un sac de toile sur eux en signe de deuil. Ils se couvrent de cendres également. Et on remarque que ça part de la base. Hein, c'est toute condition sociale. C'est le roi après qui fait un décret. Et tellement radicale cette repentance, cette conversion, qu'elle éveille le soupçon. Les Ninivites ne seraient-ils pas entrés de ce ne seraient-ils pas entrés en train de tromper tout le monde en faisant semblant? Eh bien non. Il semble que Dieu lui-même tient compte de leur repentance. À la fin du chapitre 3, Dieu dit. Enfin, l'auteur dit « Alors Dieu renonça à faire venir sur eux le malheur dont il les avait menacés, il ne le fit pas. » Et c'est tout à fait remarquable, ces gens-là sont parvenus, par leur repentance, à faire changer les plans de Dieu. On dit parfois même dans la Bible que Dieu se repent du malheur qu'il avait pensé amener sur ce peuple. Alors ça s'appelle des anthropomorphismes, c'est-à-dire qu'on parle de Dieu la manière des hommes. Bien sûr, Dieu ne se repent pas. Mais là, quand même, il tient compte de la repentance de ces Ninivites. Et on peut se demander ce qui a fait la différence. Est-ce que c'est l'histoire du sac et de la cendre qui a impressionné Dieu, ou bien c'est l'authenticité et la profondeur de leur repentance? Une profondeur qui se manifeste par l'emploi de trois verbes. Et on va les voir ensemble, ces trois verbes, si vous le permettez. Le premier verbe, ah non, il est déjà là, voilà. Le premier verbe, au verset 5, « Les gens de Ninive crurent en Dieu. » Le verbe « croire ». En hébreu, le verbe « croire » se dit « aman », qui a donné « amen », qui veut dire « c'est vrai, ainsi soit-il », comme disent nos frères catholiques, quand ils terminent une prière. Amen, ainsi soit-il. Et quand on dit que les Ninivites crurent en Dieu, cela veut dire qu'ils ont dit, c'est vrai, nous méritons cette condamnation qui nous est proclamée par Jonas. Nous sommes, c'est vrai, des gens violents et loin de Dieu. Nous le reconnaissons, nous sommes d'accord avec cette parole sur nous et même contre nous. Et nous avons là la base de la repentance authentique. On ne se trouve pas d'excuses. On ne se met pas sur la défensive en disant que notre violence est culturelle. On ne cherche pas de circonstances atténuantes. On ne se dit pas « nous sommes quand même une civilisation cultivée et ce serait dommage à cause de quelques erreurs de jeunesse de détruire une si belle bibliothèque en cunéiforme ». Non, on dit « amen » sur nous et sur notre vie. On dit la même chose que Dieu sur notre vie. Et en grec, le verbe « confesser » se dit « homologeo ». Logeo, dire, homo, la même chose. Dire la même chose que Dieu sur notre situation, sur notre état, sur nos manquements, sur notre violence, sur nos détours, sur nos fuites en avant, sur notre jalousie, sur nos colères excessives, etc., etc. Le deuxième verbe est dit par le roi de Ninive au verset 8, que chacun abandonne sa voie, sa mauvaise conduite et la violence attachée à la paume de ses mains. Le roi avait compris qu'une vraie repentance, ce n'était pas seulement mettre le sac et la cendre, porter deuil, mais passait par une action décisive, revenir de la conduite attachée aux mains. Quand on se repent, on fait quelque chose de concret. Et le message est bien perçu par la population, ce n'est pas seulement un vœu pieux, une formule religieuse, ils le font effectivement, verset 10, « Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise conduite. » Ils ne revenaient pas théoriquement, mais pratiquement, effectivement, et Dieu le voit. Pas de paroles en l'air ou des jets de cendres, mais des actes posés et des engagements fermes. On peut changer. On veut changer. Et la Bible parle aussi d'œuvres dignes de repentance. c'est-à-dire d'œuvres, des actes concrets qui sont dignes, et le mot digne peut se traduire par le mot conforme, qui sont conformes à cette repentance et qui démontrent la réalité de ma repentance. Les Ninivites sont revenus de la violence qui a été pourtant attachée depuis des siècles à la paume de leurs mains, inscrite dans leur culture, presque dans leur gène. Ils s'en sont débarrassés avec détermination et Dieu a vu dans tout cela une repentance authentique. Le troisième verbe se trouve également au verset 8 et dans la bouche du roi de Ninive, c'est le verbe « crier ». Que tous les hommes crient à Dieu avec force. Et ici, plus que le verbe, plus que l'action, crier, c'est le destinataire qui me paraît être important. Dieu, crier à Dieu. La repentance authentique est un mouvement dirigé vers Dieu. Il existe une repentance qui consiste à crier sur soi-même. Oh, je m'en veux. Je n'aurais pas dû faire ça. Quel idiot je fais. On pleure. On pleure peut-être, mais on pleure sur soi-même, on s'apitoie sur son sort et on s'occupe en définitive très peu de Dieu. Saül, par exemple, qui reconnaît avoir péché, mais qui semble beaucoup plus préoccupé par sa réputation. On pourrait aussi parler de Judas. Paul parle d'une tristesse, on pourrait dire d'un remords centré sur soi qui produit la mort. C'est un verset un peu compliqué, mais je vous le cite quand même. En effet, la tristesse, on pourrait dire la repentance, qui est bonne aux yeux de Dieu, produit un changement d'attitude qui conduit au salut et qu'on ne regrette pas. J'adore cette expression, la repentance qu'on ne regrette pas. Mais il ajoute la tristesse ou la repentance du monde, c'est-à-dire centrée sur soi, produit la mort. Dans cette sorte de repentance inauthentique, c'est notre ego qui est offensé. Ce sont les conséquences de notre faute qui nous touchent plus que la faute elle-même. Et quand notre ego est en crise, il va prendre la décision d'être plus prudent la prochaine fois, de ne pas s'exposer, et on va renforcer son ego sans rien résoudre. La vraie repentance est d'un tout autre ordre. Si le remords sert à renforcer notre ego, la vraie repentance consiste à l'abandonner à Dieu. Seigneur, je remets toute ma personne entre tes mains. Le roi dit, qui sait si Dieu ne reviendra pas? Il y a un petit espoir quand même, mais il n'y a aucune garantie, en tout cas il n'y a aucune manipulation dans leur démarche, mais plutôt un abandon. Ils abandonnent leur sort entre les mains de Dieu. Ils crient à lui. Voilà donc ce que les Ninivites peuvent nous apprendre sur la repentance et sur sa profondeur, celle que l'on ne regrette pas, parce qu'elle débloque des situations jugées impossibles. On ne la regrette pas parce qu'elle mène à quelque chose d'extraordinaire, elle mène au salut, à la rédemption, à la paix avec Dieu, et ça c'est notre première réponse, une repentance authentique. Et je vous demandais, et à moi aussi, quelle est la dernière fois où nous nous sommes repentis devant Dieu d'une manière authentique? Mon père disait toujours, on se convertit tous les jours. Moi, j'ai été formé dans un institut biblique très évangélique, et moi, je disais, non, la conversion, c'est une fois pour toutes. On se convertit. Moi, je me suis converti à 16 ans. Mais plus je vieillis, plus je me dis que mon père avait raison. On se convertit. On se repent, tous les jours pour vivre avec Dieu. La deuxième réponse à la question, la première étant la repentance que l'on ne regrette pas, la deuxième réponse à cette question de pourquoi, comment Dieu fait-il encore confiance à Jonas ou à ses Ninivites, c'est bien tout simplement, et comme Yvonne l'a bien dit tout à l'heure, parce que notre Dieu est un Dieu de grâce, tout simplement. Jonas le dit lui-même un peu plus loin dans Jonas 4, 2, le quatrième chapitre. « Je savais que tu es un Dieu plein de grâce et de compassion, lent à te mettre en colère et riche en ton amour. Je le savais !» Et Jonas chassé naturel, il revient au galop, toujours aussi un peu nationaliste. Je savais que tu étais un Dieu de grâce, que tu étais prêt à pardonner à tout le monde. Et il en est un peu irrité, contrarié. Jonas reste le même, mais ici il parle comme un prophète qu'il est d'ailleurs, et il parle de Dieu dans la vérité. Je savais que tu étais un Dieu plein de grâce et riche en ton amour, tellement rempli de grâce et d'amour qu'il est prêt à changer ses plans suite à la repentance des Ninivites. Mais s'il change ses plans, c'est parce qu'il le veut bien. Il aime changer ses plans suite à la repentance des gens. C'est inscrit dans le caractère de Dieu parce qu'il est avant tout un Dieu de grâce. Même la repentance de Jonas, et encore plus des Ninivites, vient du Dieu de la grâce. C'est lui qui met tout en place pour que cette repentance soit possible, qui envoie la tempête sur ce bateau qui emporte Jonas, qui adresse une deuxième fois la parole à Jonas et qui envoie Jonas à Ninive pour qu'il proclame la repentance, pour qu'il proclame un message qui mène à la repentance. Alors bien sûr, les Ninivites auraient pu s'endurcir, auraient pu refuser, mais Dieu, dans sa grâce, donne aussi aux Ninivites la possibilité de se repentir et de changer. Tout vient de Dieu et de ce Dieu de grâce qui envoie des instruments de grâce à tous ceux qui sont loin de lui et qui sont peut-être à des années-lumière de la foi. Ce Dieu de grâce qui donne des secondes chances à ceux qui ont raté la première. Et j'ai le titre en fait de ce message que je ne vous ai pas encore donné, donc le titre de cet épisode 3, Jonas 3, ou la grâce de Dieu à l'œuvre. Et cette grâce est encore à l'œuvre dans ma vie aujourd'hui et dans votre vie et dans le monde. Sachons la saisir, sachons la vivre et sachons la proclamer autour de nous. Amen. Nous allons prier.